J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme qui se bat pour les femmes, qui les défend contre les hommes, souvent des hommes puissants, qui les ont agressées. Elle se bat pour les femmes et elle se bat pour la justice. Une justice moins dysfonctionnelle et moins lente. Une justice qui soit faite pour les hommes et les femmes et non contre eux. Et c'est parce qu'elle se bat pour cette justice-là que, même si elle défend des femmes victimes d'hommes puissants, elle voudra toujours que le doute profite à l'accusé et jamais ne se résoudra à condamner un homme sans preuve. Qu'est-ce qui l'a fait tenir? Qu'est-ce qui allume en elle le feu de sa vitalité, de sa combativité? Quand elle se lève le matin, est-ce l'amour, la foi, l'orgueil, le tennis? Est-ce d'essayer de faire chaque matin un peu mieux que la veille? Est-ce cette conviction, cette intime conviction peut-être, mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison? Au fond, peut-être que le monde se sépare en deux, comme l'affirma Clint Eastwood dans un autre contexte. Ceux qui pensent qu'on peut bien mettre quelques innocents en prison pour maintenir l'ordre public, et celles et ceux qui n'en démordront pas, mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Elle se souvient de la première fois qu'elle a entendu cette phrase de Goethe « Mieux vaut une injustice qu'un désordre ». Ah, le choc que ce fut! Est-ce contre cette phrase que sa vocation s'est construite? Qu'elle a décidé de devenir avocate pénaliste? Les choses ne sont probablement pas si simples. D'ailleurs, même quand elle gagne, elle dit que « gagner » n'est probablement pas le mot, en tout cas qu'il peut sonner étrangement. Est-ce que c'est vraiment « gagner » que d'envoyer quelqu'un en prison pour 12 ans? Peut-être que justice est faite, mais que ce n'est pas « gagner » pour autant. Les mots sont importants et c'est peut-être pourquoi cette avocate pénaliste est aussi essayiste, romancière, écrivaine, comme pour se confronter encore à ce qui s'agite dans l'âme humaine, comme pour tourner encore autour de la difficile question de la vérité. La vérité en littérature n'est pas la vérité. La vérité judiciaire non plus n'est pas la vérité. Voilà son combat et son refus des simplifications de la pensée binaire. Ce n'est pas en refusant la complexité et en tombant dans des anathèmes sécuritaires simplificateurs que l'on s'embattra efficacement pour une justice meilleure. Mais comment faire? Comment réparer notre justice et avec elle tout notre contrat social? Pour en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir cette grande juriste qui apparaît tout en haut du classement des meilleurs pénalistes de France, avocate notamment de Judith Godrèche et de nombreuses plaignantes contre PPDA, Tariq Ramadan ou Georges Tron, à la tête d'un cabinet qui fut longtemps, mais c'est plus le cas, 100% féminin, première secrétaire de la conférence du barreau de Paris en 2006, autrice de nombreux essais ou romans comme Le Très Beau Porter leur voix en 2014 ou plus récemment en 2023 de La Justice contre les hommes et aussi contre les femmes évidemment. Elle sort bientôt le 14 janvier prochain chez Flammarion Avant la peine, un beau roman qui met en scène Rebecca et Baptiste. Rebecca qui porte plainte contre Baptiste. Est-ce un viol? Est-ce une relation consentie? Et quand on est juré, peut-on toujours parvenir à une intime conviction? Laure Heinick est avec nous ce matin, sous le soleil de Platon et en sa compagnie. Nous allons essayer de mieux comprendre notre justice. Quand est-ce qu'elle fonctionne bien? Comment pourrait-elle mieux fonctionner?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Laure Heinick.
Bonjour Charles Pépin.
Merci beaucoup d'être venu sous le soleil de Platon. On va voir que c'est peut-être pas la meilleure référence pour penser le droit, d'ailleurs. Je me souviens de votre essai « Porter leur voix », sorti il y a une dizaine d'années, que j'avais adoré, où déjà, on sentait votre voix à vous, humaniste, lucide, qui vous aimez vraiment ce métier, et vous reconnaissez en même temps que c'est pas facile tous les jours.
Oui, alors, c'est comme si c'était un état, en fait, d'être avocat. C'est pas vraiment un métier, c'est ouais. pas vraiment une profession. Je crois que ça prend aux tripes, et puis ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on défend. Hein, on défend les gens dans la rue, ouais. on défend tous les individus, c'est structurel. Donc, si on n'est pas constitué comme ça, il faut faire autre chose.
Constitué comment? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait une bonne avocate pénaliste? Dans la constitution naturelle, j'entends.
La capacité de s'indigner, ouais. et que ça déclenche le mouvement, cette capacité d'indignation. Je ne sais pas si c'est du courage. Moi, on me parle souvent de courage, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça, le courage. Ouais. Hein, on le voit ailleurs, sur d'autres terrains. Mais ne pas avoir peur de se mettre devant les gens pour les défendre, oui. Donc de prendre certains coups. Mais enfin, les coups, c'est souvent juste des paroles.
Je voudrais qu'on commence par cette notion d'intime conviction. J'avoue que je ne comprends pas bien, en fait. Parce que si c'est intime, à un moment, ça s'exprime. Et comment on fait quand on n'en a pas? Et qu'on est juré, par exemple?
Oh, je crois qu'on a forcément une intime conviction, mais qu'elle se construit, alors que vous ne le compreniez pas, c'est normal, parce qu'il n'y a pas de définition dans le code de procédure. C'est un terme qui apparaît deux fois, qui apparaît pour les jurés à la cour d'assises, et puis qui apparaît pour les juges aussi.
D'accord.
Et donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la part de subjectivité pour apprécier une preuve. Alors, vous me direz, il n'y a pas plus de définition de la preuve. Et vous aurez raison, la preuve est libre, mais en fait, c'est beaucoup d'éléments qui viennent au cours d'un débat contradictoire.
D'accord.
Et donc, les jurés ou les juges entendent ce débat-là. Et là, ils se forgent une intime conviction, et ce n'est pas rien. L'intime conviction, c'est, selon la loi quand même, l'impression qui est faite sur la raison. Donc ça, ça doit bien vous parler. La raison, comme à chacun...
Pas sur l'émotion.
L'émotion, on a forcément des biais, donc l'émotion, elle influe nécessairement, mais chacun avec des éléments qui sont des éléments objectifs, qui ont été débattus, des éléments de preuve, on doit se forger une opinion. Et alors, c'est garanti quand même, l'intime conviction, par le fait qu'il doit y avoir des éléments objectifs, et par la collégialité. Donc en général, vous avez trois magistrats, ou vous avez une cour d'assises composée avec des jurés, donc c'est aussi la subjectivité de chacun qui est encadré par la preuve et par le nombre.
Mais donc finalement, l'intime conviction, elle est, on va dire, requise pour le juré, pour le juge, mais c'est tout. Pas pour les autres. Le procureur, l'avocat général, les avocats, eux n'ont pas à avoir cette intime conviction. C'est pas le sujet, on est d'accord.
Mais c'est pas le sujet, non. C'est vrai que ça choque pas mal. C'est une question qu'on pose très souvent pour les avocats. En fait, est-ce qu'on sait si nos clients sont coupables ou pas ? Est-ce qu'on a une intime conviction ? On a une idée. Alors, est-ce qu'on appelle ça une intime conviction ou pas ? Mais c'est vrai que c'est pas le sujet. C'est quelque chose qu'on écarte, moi, que j'écarte au premier rendez-vous. Du reste, hein, quand je défends quelqu'un qui est accusé, de lui dire qu'en fait, la vérité ne me regarde pas. Et il me dit les choses s'il veut, il doit savoir que ça ne peut pas sortir de ce cabinet parce que je suis soumise à un secret professionnel, mais on peut aussi plaider que quand on est convaincu, donc il faut que l'histoire tienne, il faut que qu'on ait un récit, hein, c'est vraiment des batailles de récits les histoires judiciaires, et à ce moment-là on peut convaincre, donc il y a forcément quelque chose de l'intime conviction qui doit ressortir d'une plaidoirie.
Finalement quand même.
Mais finalement, il faut convaincre les autres. Alors, ce qu'il y a, c'est que la vérité, elle est forcément multiple. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a la vérité de celui qui accuse. Il doit être convaincu, certainement, de ce qu'il dit. En tout cas, de la nécessité de la peine. J'en sais rien s'il est convaincu du récit qu'il prononce, mais de la nécessité de sa peine. Et de l'autre côté, de la nécessité que la peine est inutile ou disproportionnée, ou que la personne doit être dispensée de cette peine-là. Ça, je pense qu'il faut être convaincu de ça. Après, le chemin par lequel on y arrive, il est peut-être pas si nécessaire d'en être convaincu, mais c'est le résultat, oui.
Mieux vaut une injustice qu'un désordre. Quand j'ai cité cette phrase de Goethe, j'ai imaginé qu'elle avait été importante dans votre parcours, mais en fait, j'en sais rien, et ça vous a fait sourire.
Oui, ça m'a fait sourire parce que vous ramenez la philosophie et vous avez raison qu'elle est pourtant tellement absente finalement dans le parcours juridique, en droit. Et puis nous on dit plus aisément que mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent qui soit détenu. Et en même temps, ça ne m'apparaît pas plus si simple dans les débats, même au sein de la profession. Enfin, si c'est une évidence qui fonde, à mon sens, l'être avocat, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi des débats où, quand on parle de cette société qui est fracturée à l'extérieur, j'ai le sentiment qu'elle est aussi fracturée à l'intérieur du corps des avocats et que la question se pose quand même.
C'est-à-dire que vous avez des avocats qui préféraient qu'il y ait parfois... un innocent en prison.
C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est tellement... une société qui est tellement sécuritaire, le politique qui met tellement de poids à l'intérieur, et il est tellement demandé à la justice qu'il faut une réponse pénale. Mais la réponse pénale, c'est quoi ? C'est jamais un acquittement. Enfin, ça c'est censé être une réponse pénale. Mais la réponse pénale, elle n'est pas vécue comme ça. Et donc, il peut y avoir des déceptions, bien sûr. Vous disiez dans votre très belle présentation, dont je vous remercie, bien sûr, que je défends des jeunes femmes qui portent des accusations. Et vous interrogiez le sens... de gagner, en fait. Est-ce que, parfois, quand il n'y a absolument aucune preuve, bien qu'il y ait une dénonciation, c'est pas aussi la victoire de la justice et que c'est pas comme ça qu'on doit pouvoir le comprendre aussi, même quand on est une partie civile, une victime qui accuse, de se dire j'ai porté ma plainte au bon endroit, j'ai eu une réponse pénale qui vient me dire que la loi qui nous gouverne, et heureusement que c'est celle-là, ne peut pas condamner aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu assez d'éléments. Et c'est celle-là qui va me protéger contre l'arbitraire. C'est celle-là qui va me protéger dans la rue, qu'on ne m'arrêtera pas sur une dénonciation qui ne sera pas fondée par d'autres éléments. Donc c'est véritablement très dur à entendre. Et en même temps, on n'a pas trouvé de meilleur système.
Vous voulez dire, Laura Hennig, que parmi les victimes dont vous êtes l'avocate, alors Judith Godrèche, Hélène Devinck dans l'affaire PPDA, la victime de Georges Tron, lui, il a été condamné, mais je ne me souviens plus de son nom. Certaines auraient pu comprendre ça et se dire, voilà, je sais qu'il est coupable, mais il n'y a pas de preuves, et finalement, je l'accepte parce que c'est ce système qui me protège dans d'autres situations de l'arbitraire. Vous avez déjà vécu ça ?
Pour soi-même, c'est compliqué. Moi, je pense que c'est un discours d'avocat. C'est un discours à tenir. Moi, c'est un discours que je tiens. On fait tout pour rapporter, évidemment, toutes les preuves pour que la culpabilité, parce que c'est le rôle aussi de l'avocat d'une partie civile, on n'a pas le droit de parler de la peine ou d'évoquer de la peine, ça regarde que la société, le quantum de la peine. Mais en revanche, la culpabilité, ça regarde la partie civile qui doit apporter des preuves, mais c'est aussi c'est le devoir de la société, et c'est pour ça qu'il y a un procureur de la République ou un avocat général, que d'accuser. Et en fait, c'est l'échec de la société si ça ne se transforme pas en condamnation alors que c'était un fait fautif. Et je crois, oui, que chacun est capable d'intelligence et de se dire que, vous savez, ces collages féministes qui sont super, qui font beaucoup parler, qui sont très créatifs, et notamment il y a celui de « On te croit ». Et qu'il y a un film probablement magnifique, je ne l'ai pas encore vu, qui est sorti, qui s'intitule comme ça. Ça, c'est très important, mais ce n'est pas le travail de la justice. C'est très important d'aller dire aux familles « Il faut croire une femme quand elle dénonce. Il faut croire vos filles, en fait, quand elles dénoncent le père, parce que c'est si compliqué que ça. » Mais ce n'est pas le travail de la justice. La justice, elle ne vient pas dire « On t'a pas cru quand il n'y a pas eu de condamnation. » Et je crois qu'il y a un malentendu qui est énorme et qui fait que raviver des blessures qui sont forcément importantes au départ, quand on entend une décision de justice comme le fait qu'on t'aurait pas cru alors que c'est pas le cas.
Bien sûr. Laura Hennig, vous qui défendez beaucoup, enfin vous ne faites pas que ça d'ailleurs, mais beaucoup de femmes victimes de violences sexuelles, qu'est-ce que vous pensez de la phrase « La honte doit changer de camp »
Je ne sais pas si c'est la honte qui doit changer de camp ou l'honneur, la liberté. La liberté, elle ne doit pas forcément changer de camp non plus. Mais vous savez, la honte, là non plus, c'est une victoire. Ce n'est pas une victoire de la mettre sur quelqu'un, en fait.
Oui, de faire honte aux criminels, ce n'est peut-être pas le but. Peut-être qu'il faudrait le mettre en prison, vraiment, le condamner, ce qu'on n'arrive déjà pas à faire, en tout cas pas assez. Et peut-être que pour que les femmes victimes, qu'elles cessent d'avoir honte. Ça, c'est le but.
Oui, voilà.
Mais peut-être pas nécessairement que ça change de camp.
Que la honte doit cesser, ça c'est évident. Et c'est étonnant parce qu'en fait, il y a un parcours qui est assez similaire. Moi, je défends les deux. J'ai été très médiatisée sur les affaires de victimes, ouais. Parce que beaucoup de femmes que j'ai défendues étaient célèbres et ont pu porter sur la scène médiatique. Mais dans mon cabinet, j'ai à peu près 50% d'auteurs et 50% de victimes. Et ce qui est très étonnant quand on défend les deux, c'est de voir qu'il y a un parcours qui est absolument similaire, qui est le parcours de l'aveu. C'est-à-dire que les femmes viennent utiliser ce verbe, qui est assez incroyable, mais il faut le comprendre, de s'avouer violée. C'est tellement difficile de reconnaître, en fait, qu'on a été violée, que c'est un parcours qui peut mettre des années. Et donc, elles finissent par, d'abord, ne pas utiliser le terme, mais en disant qu'elles ont été victimes de violences, d'effractions, et puis finalement, il y a le terme de viol qui peut arriver. Et quand vous êtes avec un homme qui a violé quelqu'un, vous avez un peu le même parcours, similaire. C'est-à-dire, pour avouer, vous avez beaucoup d'hommes qui vont pouvoir militer pour l'égalité homme-femme, vous voyez, qui vont pouvoir avoir dans le débat public ou au café avec leurs copains un discours qui est tout à fait égalitaire, et pourtant avoir commis un viol. Et le fait de pouvoir le reconnaître, mais un certain temps, c'est pas du jour au lendemain, c'est un vrai travail, et ça on le voit.
Et d'ailleurs, c'est aussi un des problèmes par rapport à la notion de vérité. Vous développez souvent l'idée que la vérité judiciaire, c'est pas la vérité tout court, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème par rapport à la façon dont des avocats pénalistes recommandent souvent à leurs clients, pour le coup, là je parle du coupable, de ne pas dire la vérité ? Est-ce que ça, c'est pas un problème? Alors, je sais que c'est, je pose une grosse question un peu brutale, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le fait que souvent, si le coupable dit la vérité, ça va mal se passer pour lui?
Est-ce que ça va mal se passer pour lui? C'est une vraie question. Moi, je pense aussi que on devrait faire bénéficier davantage ceux qui avouent dans la peine.
Alors, vous êtes bien d'accord?
Ça, je suis d'accord avec ça. Après, le tribunal, c'est un combat judiciaire et c'est un combat de vérité. Donc, c'est ça la balance de la justice. Vous avez une vérité d'un côté, une vérité de l'autre, et puis les deux s'équilibrent. Enfin, le juge doit prononcer un équilibre entre l'une et l'autre. Ensuite, parfois, on a l'impression de dire aussi des vérités qui sont plus vraies. Vous savez, dans les tribunaux, il n'y a jamais un sociologue qui peut mettre un pas, ni même, alors surtout pas un philosophe, mais je veux dire, on ne peut pas faire rentrer la sociologie. Donc on ne va jamais parler de tout ce qui dégrade les vies humaines et de pourquoi on en est arrivé là aussi. Bon, ben, peut-être d'aller dire ça et d'insister plus que sur les faits eux-mêmes, c'est encore davantage la vérité.
Très intéressant. À ce sujet, je vous propose d'écouter un extrait du film Saint-Omer, où il est justement question, alors c'est un peu brutal, désolé chers auditeurs et auditrices, mais il est justement question dans ce film de faire rentrer cette société-là, cette sociologie dans le tribunal.
Madame Colly, savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille?
Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre.
Est-ce que vous reconnaissez les faits?
Oui, je les reconnais.
Qu'est-ce que vous plaidez?
Je plaide non coupable, Madame la Présidente. Je ne suis pas sûre d'être la vraie responsable dans cette affaire.
Ah, il y a beaucoup de choses, là.
Ben, il y a la question du pourquoi. En fait, et cette question, elle est toujours posée dans les cours d'assises. Mais pourquoi vous avez fait ça? Et en fait, dans la majorité des passages à l'acte, si les gens avaient su, ben, ils ne seraient pas passés à l'acte. Donc cette question-là, elle reste comme une impossibilité de répondre. Vous avez des coups qui partent, vous avez des violences qui partent. Ben, c'est quand même assez rare en réalité qu'on sache exactement la réalité de cette violence qui était là en vous.
Mais ça veut dire aussi plusieurs choses possibles. Bon, le film est complexe. C'est pour ça que c'est un grand film. D'abord, quand elle dit « je plaide non coupable », alors qu'elle vient de reconnaître les faits, c'est peut-être pour la raison que j'évoquais précédemment, qui est que pénalement, ça va mal se passer pour elle si elle plaide coupable. Premier point. Mais deuxième point, elle fait peut-être aussi référence à tout l'engrenage de l'injustice sociale, des inégalités, de la violence qu'elle a subie, qui l'a contraint à devenir criminelle sans qu'elle se juge responsable en tant qu'individu. Ça me fait un peu penser à cette phrase de Durkheim, qui est une belle phrase, qui dit « la pitié pour le criminel ». C'est le début de la civilisation.
Oui, alors je crois qu'effectivement, si on était tous d'accord sur cette phrase-là, ben, on verrait la justice complètement autrement. Parce que c'est vrai que la justice répressive, et c'est pour ça que les temps actuels sont assez désespérants, puisque tous les hommes politiques s'engouffrent à chaque fait divers dans toujours plus de répression, alors qu'en fait, on sait que ça ne fonctionne pas. Et qu'il faudrait peut-être trouver d'autres moyens, et que les moyens, précisément, ce serait d'essayer de parler ensemble et de comprendre les actes. Alors, il y a un autre très beau film judiciaire, un film de Jeanne Herry, qui est « Je verrai toujours vos visages », qui est sur la justice restaurative. Et on voit à ce moment-là que ceux qui ont été condamnés ont été capables, en fait, de dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire devant un tribunal, parce que c'est pas le lieu devant un tribunal. On doit caractériser l'infraction. Est-ce que vous l'avez tué, oui ou non? Et en fait, c'est quand même assez binaire. Et la porte se referme, et elle se referme aussi, parce que bien sûr qu'on peut pas dire des choses un peu atroces sur soi et qui mériteraient d'être dites, parce qu'on a tous des choses atroces sur nous-mêmes à dire, mais que c'est pas le lieu dans un tribunal quand vous risquez des années de prison.
Et ben justement, Laura Hennig, vous avez cité ce très beau film, Je verrai toujours vos visages, qui nous donne un peu d'espoir à deux jours de Noël aussi, une justice très restaurative. Qu'est-ce qu'elle restaure? On va en parler après, mais d'abord, on va écouter un extrait.
Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative?
C'est des victimes qui rencontrent des détenus.
Oui, c'est ça.
Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement.
J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses.
J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, il était mieux.
Voilà, je verrai toujours vos visages. On invite tout le monde à voir ce magnifique film de Jeanne Herry. Et je précise d'ailleurs qu'on va avoir un moment de l'émission sur les raisons d'espérer tout à l'heure.
Oui, alors ça donne de l'espoir de les voir se parler, parce qu'en fait ça parle du lien qui peut se refaire. On entend beaucoup les ministres de la justice successifs nous dire, Gérald Darmanin il a même été jusqu'à dire « je vais être le ministre des victimes ». Mais être le ministre des victimes, c'est pas mettre les agresseurs en détention, c'est faire ce qui est fait dans ce film-là. Parce que là, vous voyez des victimes qui vont mieux. Et qu'est-ce qu'on peut leur apporter plus du point de vue de la société, pour elles-mêmes, que d'aller mieux. Donc, mais c'est 0,02% du budget de la justice, oui. La justice restaurative.
Dans la justice restaurative, il y a aussi que les coupables évoluent. Il n'y a pas simplement que les victimes vont mieux. Il y a aussi que les coupables se sont déplacés et que, quelque part, ils montrent un autre visage.
Oui, il y a le temps aussi, quand l'intervenant, qui doit être un conseiller d'insertion et de probation, qui fait ce travail-là, qui leur dit, nous ici, on écoute. Bon, mais personne n'écoute les détenus, en fait. Quand ils sont détenus en prison pendant 3 ans, le temps d'une instruction en détention provisoire, eh ben, ils voient 2 fois un juge d'instruction qui les interroge. Ça, c'est pas écouté. Il y a un psy pour 400 détenus. Enfin, ils n'ont vraiment personne à qui parler. C'est ça, l'isolement aussi. Donc, c'est pas fait pour qu'ils évoluent.
Eh bien, nous, Laure Heinic, on vous écoute et on va maintenant écouter Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
C'était beau et c'était Bob Dylan, Blowing the Wind.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous ne sommes pas répressifs. Chaque fois qu'on nous a demandé des mises en liberté provisoire de violeurs, choisir a dit banco. Nous n'avons jamais pensé que la prison pouvait être une bonne thérapeutique. Mais ce que nous trouvons suspect et inadmissible, c'est que la campagne se fasse contre l'emprisonnement des violeurs. Elle ne se fait pas ailleurs. Alors nous disons, si vous voulez supprimer la prison, pour tout le monde, comme système, nous signons des deux mains. Mais si vous commencez à la supprimer uniquement quand il s'agit de viol, eh bien ça veut dire, violer une femme, c'est pas grave au point qu'on mette des hommes en prison. En revanche, voler dans un drugstore ou faire un chèque sans provision, la prison, oui.
Nous sommes toujours avec Laure Heinig sous le soleil de Platon. C'était passionnant de vous écouter dans la première partie de l'émission. Et là, on vient d'entendre votre ancienne collaboratrice, Gisèle Halimi. Vous avez beaucoup travaillé avec elle. Et c'est une transition parfaite pour arriver à parler des principaux dysfonctionnements de la justice. Là, on en entend un, c'est que d'une certaine manière, les violeurs sont moins condamnés que les autres. Au fond, c'est comme un invariant dans la justice française. Et j'ai lu récemment votre protestation contre le fait que, précisément, pour accélérer la justice en ce moment, les femmes victimes de viol étaient fortement invitées à accepter la requalification du viol qu'elles ont subi en simple agression sexuelle, et que c'était le prix à payer pour que l'affaire soit jugée assez rapidement.
Et oui, là, vous avez passé un extrait de Gisèle Halimi, et elle se retournera dans sa tombe. Enfin, déjà, je voudrais juste dire à quel point ce sont des propos d'avocat. C'est-à-dire que vraiment, Gisèle Halimi fait partie des plus grandes féministes qui aient pu avoir parmi nous. Et malgré tout, elle tenait la barre d'être avocate, c'est-à-dire qu'elle était à la fois militante et à la fois avocate en disant bah, « la prison, c'est pour personne ». C'est quand même ça hein, qu'elle vient de dire d'abord, ou c'est pour tout le monde, ou c'est pour personne, mais pour personne d'abord et on signe dès demain. Donc elle devrait plutôt être écoutée par nos hommes politiques. Du temps de Gisèle Halimi, c'est le procès d'Aix-en-Provence dont on a beaucoup parlé. Le procès d'Aix-en-Provence, les hommes n'étaient pas jugés pour viol, alors que les deux femmes avaient dénoncé un viol, c'est-à-dire un acte commis avec pénétration en l'absence de consentement. Et d'ailleurs, c'était la loi à l'époque. Et ils étaient jugés juste pour des violences. Et donc, elle a refusé en arrivant au tribunal en disant « Mais non, elles ont dénoncé un viol, il faut que ce soit la juste qualification qui soit retenue. » Et ensuite, elle a fait évoluer la loi, qui était la loi qu'on connaît jusqu'à présent, qui est un acte de pénétration avec violence, menace, contrainte ou surprise. Et elle a exigé que tous les viols soient jugés comme des crimes. Le viol était déjà un crime, mais la qualification n'était jamais retenue. Et aujourd'hui, depuis quelques années déjà, depuis Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti qui a fini par définitivement tuer la cour d'assises pour les viols, ce crime-là est jugé comme un crime moins grave que les autres. Pourquoi ? Parce qu'il a une autre cour. Il a une cour criminelle. Et donc aujourd'hui, pour tous les crimes que vous commettez, un crime, c'est quand la peine encourue est une peine de plus de 10 ans d'emprisonnement. Donc le meurtre, l'assassinat, etc., vous avez 20 ans, 30 ans qui sont encourus. Ces crimes-là, vous avez des jurés. Et pour ce qui est de moins de 20 ans, c'est-à-dire le viol en fait, c'est avec les coups mortels, ce sont les deux seuls crimes qui sont de moins de 20 ans, et bien maintenant, vous n'avez que des juges professionnels.
Donc il n'y a plus de jurés.
Il n'y a plus de jurés. Pour les viols. Ça coûte trop cher, c'est 90% des affaires, donc il faut qu'on aille plus vite, il ne faut pas former des jurés, et donc les jurés ne rentrent plus dans les cours d'assises. Et en plus de cela, régulièrement, on a des magistrats qui nous disent « Bon, mais c'est pas trois juges, c'est cinq juges, la cour criminelle, donc c'est trop encore. Ce qu'on vous demande, c'est d'accepter de nous dire que, en fait, il n'y avait pas de pénétration. » On va écrire qu'il y avait une pénétration, mais vous allez être d'accord pour passer en correctionnel, comme si c'était une agression sexuelle.
Et
là, la peine encourue, pas un viol, la peine encourue passe à 7 ans d'emprisonnement, mais c'est pas forcément le problème, hein, la peine encourue. C'est que d'un seul coup, l'affaire, elle met une heure et demie pour être jugée, parce que c'est comme ça qu'on juge les affaires correctionnelles, alors que c'est 3 jours sur une cour criminelle. En fait, le viol, c'est toujours l'affaire qui trinque. Et donc, quand on vient vous dire, c'est la grande cause nationale, les femmes, etc., qu'on vient vous faire une belle loi en rajoutant à la loi de Gisèle Halimi cette histoire de consentement, bon, pourquoi pas, c'est très pédagogique, mais en réalité, ça n'apporte rien.
D'où votre célérité à l'égard d'Éric Dupond-Moretti, que vous avez qualifié de grand avocat, mais de tout petit ministre.
Oui, effectivement, j'ai été tellement heureuse, en fait, quand il a été nommé ministre de la Justice. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était quelqu'un qui avait des convictions. Après, j'ai entendu dire aussi, on peut se dire que c'était finalement un bon avocat, parce que même quand il est passé ministre de la Justice, il a défendu son président de la République en défendant des lois absolument ineptes. Bon, ça, c'est être bien gentil envers lui. Oui, j'ai été extrêmement déçue. Et aujourd'hui, il retrouve une liberté de parole. C'est quand même à se demander à quel point les habits font la conviction des gens.
Mais juste qu'on comprenne bien, parce que c'est assez déprimant ce que vous dites, c'est que vous allez donc avoir des plaignantes qui vont être invitées à choisir elle-même, en fait. Soit je continue à porter plainte pour viol, mais du coup, je vais peut-être attendre 3 ans, ou peut-être plus, je ne sais pas. Soit j'accepte cette requalification à minima en agression sexuelle pour que ça aille plus vite. C'est bien ça.
C'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes à qui on a forcé le consentement en les violant, à qui on vient dire, des années plus tard, à qui la justice vient dire, bon, bah, écoutez, nous, on n'a plus de place pour juger votre affaire. Donc, soit la personne reste détenue et il est jugé dans 3 ou dans 6 mois, soit on le remet en liberté et vous aurez un jugement dans 3 ans et en plus, il restera pas détenu. Voulez-vous que ces femmes répondent ?
Mais en plus, malgré tout, la pénétration sera reconnue lors du procès verbalement. Donc, c'est complètement absurde.
C'est fictif. C'est-à-dire que cette vérité qu'elles ont vécue, on vient leur dire « c'était ça, mais pas vraiment ».
On va écouter à ce sujet Gisèle Pellico.
J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle.
C'est admirable. C'est vrai qu'il faut avoir le courage d'accepter d'être dévoilé devant tout le monde, parce que c'est ce qui s'est fait. Alors, sur un procès pour viol, la plaignante, la partie civile, a le droit de demander un huis clos, donc que les portes soient refermées, ou à ce que l'affaire soit publique. Moi, vraiment, je conseille, c'est l'expérience qui me fait dire ça au bout de tant d'années, de laisser les portes ouvertes. Parce que c'est un principe de la justice, la publicité des débats, et effectivement le regard du public, le regard des journalistes, mais normalement, alors il y a eu un peu des contre-exemples quand même au cours du procès Pellico, mais ça fait que tout le monde se tient mieux. Et on voit bien que dès que les caméras rentrent ou que les journalistes rentrent dans l'enceinte judiciaire, le fait que les choses soient rapportées à l'extérieur, tout le monde fait des efforts de tenue et de hauteur.
En fait, le principe aussi, c'est qu'on comprenne mieux la justice, qu'on la connaisse mieux, qu'on y assiste, qu'on ait le droit de venir voir un procès. Et d'ailleurs, c'est bien un des problèmes dans les dysfonctionnements, c'est la méconnaissance généralisée que les Français ont de la justice. Et d'ailleurs, quand vous avez indiqué qu'il n'y avait plus de jurés dans les procès pour viol, ça va dans le même sens du même problème. Parce que quand il y a des jurés, ça veut dire que des gens de la société comprennent mieux comment ça se passe.
Mais les cours d'assises sont vides, il n'y a personne, il y a une classe de temps en temps vraiment, mais quand un professeur fait l'effort d'arriver à sortir ses élèves, mais sinon vous avez les familles qui sont là, les gens savent à peine en fait qu'on peut rentrer dans les tribunaux, et pourtant la justice est rendue au nom du peuple français, et là ces jurés là qui effectivement étaient des témoins de comment fonctionne la justice, de se dire que ben, le viol c'est pas dans les parkings. C'est ça qu'apprennent, en fait, les jurés.
S'ils viennent.
Ouais. Et que c'est complexe. Et ces jurés-là, eh ben, ils pouvaient en parler, évidemment, le soir au dîner. Et puis, ça sédimentait comme ça dans la société. Et les gens se disaient que ben, la justice se donne du mal, quand même, aussi, pour juger les affaires quand elles étaient jugées de cette façon-là. Parce que la cour d'assises, c'est quand même la vitrine de la justice. C'est là où on prend le plus de temps, où on fait venir les témoins et où on s'interroge le plus. Et que cette justice-là puisse sédimenter dans la société, c'était quelque chose d'important. Et d'un point de vue pédagogique, de pouvoir comprendre qu'en fait, le viol, ça se déroule principalement dans les familles, c'est quand même un discours qu'il faut tenir et qu'on connaît à partir du moment où on a franchi les pas d'une cour d'assises.
Mais je suis pas sûr d'avoir bien compris au nom de quel argument on a enlevé les jurés dans ces procès pour viol.
Le manque de moyens. Parce que
Pourtant, vous avez dit qu'ils voulaient rajouter plus de juges en compensation. Donc ça coûte cher aussi.
Ben, ça coûte cher, mais ça coûte moins cher que de former des juges. Parce qu'en plus, ils les forment, les jurés. C'est-à-dire qu'ils font venir des jurés le lundi matin. Le lundi matin, normalement, il y a une visite en prison. C'est pas rien, une visite en prison quand même, d'aller voir les conditions de détention. Et c'est un peu la moindre des choses avant d'y envoyer quelqu'un pendant 20 ans. Il y a un film sur la fonction de juger. Enfin, on voit bien que les gens prennent les choses au sérieux. Ils prennent des notes, ils posent des questions. question. Et donc, ce temps de formation-là, c'est du temps qui serait perdu, c'est du temps qui est perdu en délibéré. Mais en fait, là où vous avez raison, c'est que on est à 2 ans de l'expérimentation des cours criminels. Enfin, maintenant, c'est plus une expérimentation, c'est fait. Mais les rapports nous disent que ça n'a gagné aucune minute de temps et que donc c'est juste de la perte de pédagogie dans la société.
Voilà. Et puis aussi de la perte d'inviter la société au cœur de la justice, tout simplement. Dans les principaux dysfonctionnements, qu'on a évoqué les délais, puisque c'est au nom des délais que beaucoup de viols sont invités à être qualifiés en simple agression sexuelle, on a invoqué aussi la méconnaissance généralisée de la justice. D'ailleurs, je crois que vous militez pour qu'il y ait beaucoup plus de cours sur comment ça se passe, une cour pénale au lycée. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a aussi parfois une justice politique ?
Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une justice dévoyée par les politiques. L'état de droit, précisément, c'est le droit qui soumet le pouvoir. Et aujourd'hui, on voit, notamment par la déferlante de Nicolas Sarkozy après sa condamnation. Moi, je suis l'avocate des victimes du DC10, de l'attentat, qui est au cœur du pacte de corruption reproché à Nicolas Sarkozy. Et en sortant, alors qu'il n'y a que quelques journalistes qui s'intéressent à cette affaire-là, en sortant, il refait tout le procès à son avantage, et avec une mise en cause de l'indépendance judiciaire. C'est la première garantie de l'état de droit, l'indépendance judiciaire. Ensuite, vous voyez une différence de traitement total entre lui et les autres. Son procès a pu durer 4 mois. Il a été entendu dans des conditions extraordinaires, alors que les gens partent en détention sans que ça n'émeuve personne en 25 minutes. Et ça, c'est l'état de droit aussi, la différence de traitement. Donc on peut être inquiet, oui, de la remise en cause par les politiques de l'état de droit.
On va écouter à ce sujet Fabrice Arfi.
Pourquoi il y a débat ou émotion ? Ou émotion ? Et parce qu'on n'était que 8 journalistes à suivre le procès. Pas une seule télé. En France, il y a beaucoup de chaînes d'information en continu. Pas une seule n'a suivi la totalité des audiences. Et donc, après, il y a un jugement qui tombe, qu'on dit historique, on dit on comprend rien. Ah ben oui, on comprend rien, parce qu'on n'était pas là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui prend ? Qu'est-ce qui prend ? C'est l'émotion. Et on est en train de se dire, il va lire Monte Cristo, et lui-même convoque le fantôme du capitaine Dreyfus. C'est ça le niveau du débat public. Et vous demandez pourquoi les gens ne comprennent pas. Mais venez assister au procès.
Et c'est justement Fabrice Arfi qui dit que dans cette histoire, il y a des vraies victimes, celles précisément dont vous êtes l'avocat, les familles des victimes de l'attentat du DC10.
Oui, alors Nicolas Sarkozy a été condamné pour une atteinte à la nation. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de pire, en fait ? Une association de malfaiteurs en vue de commettre une atteinte à la nation. Donc, comme en termes de délit, c'est 10 ans d'emprisonnement encouru. Il n'y a pas plus grave en termes de répression. Là, on entend Fabrice Arfi qui nous explique qu'effectivement, il n'y a personne qui a fait un effort pédagogique pour aller comprendre de quoi il s'agit. Je crois aussi que le fait que les gens aient été choqués, c'est parce que, globalement, dans la société, on peut penser que quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, et d'ailleurs c'est les premiers mots de son livre, n'irait jamais en prison. C'est-à-dire qu'il y a des catégories sociales qui devraient, parce qu'elles sont des catégories sociales qui s'estiment supérieures, ne jamais avoir à répondre d'un fait pénal et ne jamais avoir aller en détention. Ce qui veut dire, et il le dit comme ça en plus, qu'il y aurait des voyous ou des autres. Bon, Nicolas Sarkozy, il a 2 condamnations définitives, 2 fois du bracelet électronique pour corruption et pour du financement illégal. Et là, c'est sa 3e affaire. Donc je trouve que c'est difficile, et encore plus évidemment pour les familles de victimes qui ont été touchées en plein fouet, de faire une catégorisation entre les gens qui, de toute façon, n'a pas lieu d'être, mais qui, en plus, là, est faite par quelqu'un qui devrait lui-même avoir le statut de voyou selon sa propre catégorisation à lui. Mais moi, je suis pour qu'on traite personne de voyou. Vous voyez, il y a des gens qui ont été condamnés par la justice et ils sont condamnés, et puis il y a des gens qui ne l'ont pas été.
Et ce que vous dites, c'est incroyable, parce que cette distinction entre des gens qui ne devraient jamais aller en prison, quoi qu'ils aient fait, et les autres, et cette idée que ça va être beaucoup plus dur à supporter pour les uns que pour les autres, elle est assumée. J'ai entendu Henri Guénaud à la radio l'assumer explicitement, comme beaucoup de gens de l'entourage de Nicolas Sarkozy.
Oui, donc il y a 2 catégories d'êtres humains, en fait. Il y a ceux qui sont prédestinés à aller en détention et pour lesquels on ne devrait pas s'émouvoir, et que d'ailleurs les détentions devraient être beaucoup plus longues qu'elles le sont actuellement. Et puis ceux qui, de toute façon, sont nés pour ne pas y aller.
Mais donc, quand je vous demandais tout à l'heure s'il y a une justice politique, vous dites non. Mais en revanche, une justice pour les puissants qui serait différente d'une justice pour les autres.
Oui, une justice pour les puissants en même temps, là, elle a bien été rendue, la justice pour Nicolas Sarkozy. Il a un dossier de 400 pages, mais il faudrait que ce soit cette justice-là pour tout le monde. Ce qui est fou, c'est qu'il vient inverser les choses. Il sort du tribunal après avoir été obséquieux pendant des mois, avoir remercié le tribunal de lui laisser tellement de temps, parce qu'il sait quand même qu'il a eu beaucoup plus de temps que les autres pour pouvoir s'exprimer. Et quand il sort, il parle de haine des juges. Alors qu'en réalité, si les gens avaient autant de temps pour s'exprimer, ils seraient tous bien heureux.
On a l'impression que Nicolas Sarkozy rende public comme ça une attaque sur les juges eux-mêmes, ça vous fait mal?
Oui, et pourtant, je ne suis pas très douce, moi, envers les juges. Vous voyez, je trouve qu'il y a beaucoup de mépris souvent dans la façon de juger. Ah oui, que le fait que eux soient maltraités par ces histoires de délai, ils maltraitent les autres, et que donc je suis vraiment pas très douce. Oui. Mais là, c'était un confort absolu, et c'est vrai que c'était un procès exceptionnel, donc tant mieux. Et quand les juges posent des questions et écoutent les réponses pendant un quart d'heure sans avoir à le couper, vous voulez dire
que ça n'arrive jamais, en fait.
Ça n'arrive jamais quand vous êtes jugé en comparution immédiate. Il n'y a même pas votre mère qui peut venir témoigner. Il n'y a personne, il n'y a aucun témoin. Lui, il a pu faire venir la terre entière, et Carla Bruni pouvait même fumer dans la salle d'audience.
Mais vous savez que ça, personne ne le sait. C'est chose simple. Personne ne le sait. Qu'on n'a pas le droit de venir, que là, c'était exceptionnel, que cette durée était exceptionnelle. C'est ça qu'il faudrait qu'on sache.
Mais oui, mais alors, moi j'essaye d'écrire des livres, et vous avez la gentillesse de m'inviter à la radio, mais effectivement, il faudrait que... moi, je milite pas pour des cours de droit, je milite pour des cours de justice, en fait. Qu'on apprenne ce que c'est que la justice. La justice, c'est l'égalité, c'est l'équité, l'état de droit, enfin, voilà. Pas forcément et ce que c'est qu'un tribunal et la hiérarchie des normes. Mais venir obligatoirement dans les tribunaux, voir la violence dans laquelle la justice est rendue. J'ai écrit un livre, La justice contre les hommes, où j'ai un personnage qui est une réalisatrice qui vient, et qui est un vrai personnage qui vient assister aux audiences, et qui est effondrée face à la violence avec laquelle les magistrats s'adressent aux détenus. On ne sait pas ça, effectivement. Et ben, il faudrait, pour pouvoir mieux voter, aller assister à ces audiences.
Merci beaucoup, Laure Hennig. C'est passionnant de vous écouter. On voit aussi que vous n'êtes jamais dans le manichéisme et que vous essayez de vous ouvrir à la complexité. Et avant d'envisager des raisons d'espérer, on va écouter Solane et Yoa.
Plus t'es bourgeois, moins t'as de trucs à dire. J'ai pris ma cravache et mes bottes de cuir. Je compte plus les moutons ou les violeurs qui passent à la télé. Je méprise les bouffons et les suiveurs qui les font prospérer. Je pardonne à personne, je te l'ai dit, je suis redoutable. Je veux pas de fils de un, pas de connard à ma table. Équipe de copines dans la voiture, cheveux dans le vent. Pris comme des étoiles qui traversent le ciel incandescent. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme nous.
C'était Solane et Yoa, Thelma et Louise.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin. sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Laure Aynic, sous le soleil de Platon, sur France Inter. C'est très intéressant de vous écouter, on apprend plein de choses. On comprend d'ailleurs que c'est un des problèmes dans les dysfonctionnements de la justice, et qu'on ne sait pas comment ça se passe, qu'on n'y va pas assez, qu'il n'y a pas assez de cours de justice pénale au lycée, qu'il n'y a pas assez de jurés maintenant, il y a encore moins qu'avant. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez déclaré récemment que les gens ne savent même plus qu'il n'y a plus de circonstances atténuantes.
Oui.
Mais moi, j'avoue que c'était mon cas.
Oui, oui. Alors, ça fait plus de, enfin, des dizaines d'années. Je pense que quand j'ai commencé à travailler, déjà, il n'y avait plus de circonstances atténuantes. Mais bon, il n'y a pas un film sans qu'on vous parle de circonstances atténuantes. Alors après, la peine, elle est évaluée en fonction de la personnalité de l'individu. Et c'est là que peuvent rentrer les circonstances atténuantes qui ne sont pas dites.
D'accord. Alors justement, Laure Aynic, vous sortez le 14 janvier un roman chez Flammarion qui porte pour titre « Avant la peine », où on retrouve toutes ces questions, puisque ce sont deux collaborateurs qui sont très amis, et puis un jour ils couchent ensemble, et puis le lendemain il y en a une qui dit que c'est un viol, l'autre qui dit que c'était consenti, et là ça commence. Et donc c'est aussi une très belle réflexion sur le doute et sur aussi ce que c'est qu'être juré, justement.
Oui, c'est ça. Je voulais que on fasse le parcours entre avec ces deux personnages de leur vie qui est fracassée de toute façon après l'acte ou après la dénonciation, et de faire l'expérience de ce que c'est qu'être un juré si on devait juger une telle affaire.
Ouais. Et puis comment on fait pour un moment parvenir ou pas à cette intime conviction? On sent aussi la possibilité que le juré soit influencé, qu'il ait des préjugés, qu'il ait des biais. Donc c'est compliqué cette émission, parce que d'un côté on voudrait qu'il y ait plus de jurés, on a compris que c'est un problème qu'il y en ait moins, et en même temps on voit que ils sont hyper influençables, qu'il y a des biais incroyables.
Mais tous les êtres humains sont influençables. Je veux dire, même le juge, qui est le juge professionnel, il a travaillé pour ne pas être influencé, mais il faut bien qu'il reconnaisse qu'il puisse l'être.
Alors, Laure Aynic, comme l'émission arrive bientôt à sa fin, on voudrait des raisons d'espérer une amélioration. On a déjà évoqué la justice restaurative avec ce très beau film que tout le monde peut aller voir pour Noël. Je verrai toujours vos visages. On a aussi évoqué la possibilité d'être plus instruit et informé. Peut-être c'est la jeunesse qui va nous sauver.
J'espère bien, le fait que les gens travaillent. Il y a quand même un constat à faire, c'est que les gens ont envie que ça fonctionne bien. Les juges travaillent, les avocats travaillent, les greffiers travaillent. Ouais. Donc il y a quand même un mouvement. Et moi, c'est vrai que j'ai la chance aussi de travailler dans un cabinet avec des jeunes qui sont tout à fait exceptionnels. Je donne des cours à l'école d'avocats, ouais. Et ça donne vraiment des raisons d'espérer. Oui, cette jeunesse qui est créative en plus.
Alors comme vous êtes contre tout manichéisme, j'ai été surpris de voir que pendant longtemps, vous refusiez les hommes dans votre cabinet, qu'il était plein d'une sororité maximale, 100% de femmes, et c'est plus le cas aujourd'hui. Expliquez-nous un peu.
C'est plus le cas, parce que c'est bien aussi à un moment donné de changer de prisme. Et c'est vrai que aujourd'hui il y a des hommes qui viennent apporter autre chose en pensant d'une manière peut-être un peu différente. Alors c'est peut-être un peu manichéen là de le dire de cette façon-là.
On peut quand même dire sans s'attirer les foudres qu'il y a de l'altérité intéressante entre hommes et femmes quand même.
Oui, alors moi je travaille beaucoup avec un de mes confrères qui s'appelle Vincent Olivier. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on regarde les dossiers, eh ben on les voit pas du tout de la même manière. Et ça, c'est très étonnant de commencer par des prismes différents. Et c'est ça qui fait, je pense, la force du cabinet. Avec nos deux jeunes collaborateurs, je vais les citer, Alexandre Gonzalez et Julie Lechat, parce que vraiment, j'ai beaucoup de joie, et c'est eux qui donnent l'espoir aussi dans l'avenir.
Laure Aynic, qu'est-ce qui est le plus dur de votre métier d'avocate pénaliste?
Le plus dur, c'est certainement le sentiment d'échec, souvent. Parce que comme on le disait au début, que quelqu'un parte en prison, que vous l'ayez défendu ou que vous soyez même l'avocat de la personne qui a porté l'accusation, c'est toujours d'une très grande violence. Donc c'est un métier qui est violent, et en même
vous
temps on est
que
aux
vous
côtés
avez
du
un sentiment d'échec tout le temps en fait, quand vous gagnez et quand vous perdez.
Oui, sauf celui, il est un peu mince, mais d'être aux côtés des gens. Et donc justement, la machine, elle broie tellement que de savoir qu'on est aux côtés de la victime ou on est aux côtés de l'accusé. Vous savez, Henri Leclerc citait toujours Victor Hugo, « S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». C'est quand même un sacré sentiment, celui-là.
Ouais. Et votre plus belle victoire, du coup, ce serait quoi?
Ma plus belle victoire, c'est quand je reçois des lettres des années après, ou des appels, ou des textos de gens que j'ai défendus et qui m'expliquent à quel point ça a compté pour eux, et que la vie s'est reconstruite, que maintenant il y a un mariage, qu'il y a des enfants, qu'il y a de la lecture, par exemple.
Vous en recevez beaucoup ?
Je reçois pas mal, ouais. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de satisfaction.
Dans votre roman, donc, ce qui est très touchant, c'est qu'on sent que c'est une autre façon, finalement, de rendre la justice enfin de lutter contre la méconnaissance, donc il y a les cours au lycée pour lesquels vous militez, finalement que vous écriviez des essais ou des romans, c'est aussi pour ça. Et qu'est-ce que vous avez touché dans ce roman, donc Avant la peine, qui sort chez Flammarion le 14 janvier, qu'est-ce que vous avez touché que vous n'auriez pas pu dire sous une autre forme que celle de la littérature? Parce que ce qui est intéressant, c'est que la littérature, c'est aussi le lieu de l'ambiguïté, c'est le lieu de la complexité. Or, c'est tout ce pourquoi vous militez.
Mais oui, mais dans un livre, on peut avoir les deux positionnements à la fois. Moi, quand je suis l'avocate, je suis l'avocate que d'un. J'ai un seul point de vue qui est confronté à un autre point de vue, certes, mais c'est pas au même endroit. Ouais. Alors que là, on a les histoires des deux, en fait. On ne sait pas si les faits se sont passés ou pas. Je suis même pas sûre, d'ailleurs, que ce soit la vraie question du livre, si les faits se sont passés. Chacun met la question où il veut. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Est-ce que c'est caractérisé comme un crime ou pas? Voilà. C'est la question du livre. Et ensuite, comment on s'en sort et que peut faire la justice avec ça? Et que les gens puissent en ressortir en se disant « Mais en fait, c'est pas si simple. Et qu'est-ce que je ferais, moi, si j'avais ce cas-là ?»
Et surtout, qu'est-ce que je ferais si, malgré toute ma connaissance, je ne parvenais pas, on y revient, à cette intime conviction? Parce que c'est aussi ce que vous montrez dans le livre.
Oui, c'est aussi un livre sur la difficulté de juger. Et je crois que peut-être qu'on n'est pas avocat si on n'a pas un problème avec le jugement.
C'est-à-dire ?
Avec le refus. Moi, je crois que j'ai un refus de toute forme de jugement.
Vous êtes sceptique, c'est ça ?
Alors, je ne sais pas si je suis sceptique au sens philosophique, mais en tout cas...
Le sceptique, c'est celui qui refuse de juger, qui se tient, c'est ce qu'on appelle l'époké, c'est la suspension du jugement. Mais c'est compliqué pour une avocate.
Ben non, je ne sais pas si c'est compliqué. Je pense qu'on est en lutte contre l'acte de juger lui-même. On est en lutte pour les gens, mais contre l'acte de juger.
Je ne comprends pas.
Ben, moi, j'ai le sentiment que les êtres sont tellement égaux, qu'il y a tellement de choses... Robert Badinter, je cite tout le temps cette phrase, mais je vais le refaire, dit que le premier droit des hommes, c'est le droit de devenir meilleur, en fait. Ouais. Et que la justice, elle devrait être là uniquement pour ça, le droit de devenir meilleur. Et là, il y a tellement peu de considération de la réalité de la vie des gens, et on parlait de la réalité sociologique tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à juger avec si peu de considération.
Merci beaucoup Laura Hennig, c'était vraiment un très très beau voyage que vous avez proposé pour mieux découvrir ce monde du droit, de la justice, à travers à la fois votre travail d'avocate pénaliste, vos essais, votre roman, donc qui sort le 14 janvier, le prochain, Avant la peine. Je vais essayer, pour vous remercier d'avoir fait ce voyage avec nous, vous m'avez amené sur un plateau, la conclusion, votre philosophie, je m'y attendais pas, mais c'est l'époque des sages anciens, la suspension du jugement, un mélange, je dirais, de Sextus Empiricus, de Hegel et de Gisèle Halimi. Hegel parce que le droit est le royaume de la liberté réalisée, Gisèle Halimi parce qu'elle a été votre mentor et puis votre collaboratrice, et puis bien sûr, ne pas juger, laisser toujours une chance, et je dirais aussi, finalement, à travers cette réflexion sur la justice, une philosophie de la justesse. C'est ça, tout votre travail, être le plus juste possible, le plus ajusté, et c'était déjà une raison d'espérer de vous écouter ce matin à deux jours de Noël. Merci beaucoup, Laura Hennig. Cette émission a été préparée par Estelle Gap et Louise Tempero. À la programmation musicale, Valentine Chaudebois, et c'était vraiment très très bien trouvé, hein, le Bob Dylan, combien de temps il faut pour devenir un homme et le rester. Et l'émission a été réalisée à la perfection par Antoine Larcher, avec à la technique Mathias Aléon. À demain.